Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h12 à 13h. Et c'est évidemment sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de ce beau week-end, que vous êtes reposé et en pleine forme pour cette semaine qui s'annonce radieuse à nouveau dans le Beaujolais. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 et les beaux jours continuent et ça se fait plaisir. On profite du soleil et de températures autour de 15 degrés cet après-midi. Le programme de l'émission, eh bien vous le connaissez sûrement si vous nous suivez, c'est du sport avec Eddy Bernard. On va parler foot et cyclisme. Et puis c'est du jazz avec Mais la 11e, la rubrique de Georges Botton. Mais d'abord, eh bien, on passe un moment avec notre invité du jour, Pierre Vol, chef de service au foyer Les Remparts à Belleville. Il est avec nous en studio pour nous parler de cette résidence sociale qui accueille tout au long de l'année des personnes adultes dans un objectif prioritaire d'accès au logement et bien souvent aussi d'insertion sociale et professionnelle. Le foyer, eh bien, il s'agrandit, il va s'installer à Beaujeu avec la création de 38 nouveaux logements. Dont l'aménagement des parties communes nécessite un investissement important. Une campagne de crowdfunding a été mise en place à retrouver sur le site foyerlesremparts.fr. Alors comment est-ce que le foyer fonctionne au quotidien et quels sont leurs projets et leurs objectifs à venir? Eh bien, on va voir ça avec notre invité du jour, Pierre Vol, qui est avec nous, eh bien, pour répondre à nos questions. Mais d'abord, eh bien, on commence comme d'habitude l'émission en musique. On va parler de foyer, on va parler un petit peu de maison en quelque sorte. Voici donc Our House de Crosby, Stills, Nash et Young sur Calade. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Tout en douceur, Crosby, Stills, Nash & Young sur Calad avec le titre Our House.
Ensemble sur Calad, c'est évidemment sur Calad.
Allez, tout de suite, on retrouve notre invité du jour, Pierre Vol. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler du foyer Les Remparts à Belleville. Alors, déjà, pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ce foyer Les Remparts ?
Alors, c'est le nom d'une association qui gère plusieurs bâtiments à Belleville et qui propose du logement accompagné. Alors, on a plusieurs types de logements qui sont proposés. La résidence principale qui est à côté de l'école Notre-Dame et de la belle église en belle pierre au centre de Belleville. Accueille historiquement un foyer de jeunes travailleurs, donc pour les personnes de moins de 30 ans qui sont en mobilité professionnelle, en situation d'entre-deux, etc. Mais petit à petit, l'activité pour les jeunes s'est réduite. Aujourd'hui, on accueille aussi dans ces places de jeunes ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, donc les fameux migrants dont on parle énormément à la télé, parce que c'est d'actualité toujours. On a donc quelques places pour ces jeunes-là, mais au-delà de ça, dans ce premier bâtiment principal, qui fait 55 places à peu près, on accueille aussi et surtout un public adulte, ce qu'on appelle résidence sociale. Ouais. Ce sont des logements transitoires, donc on a une moyenne d'à peu près un an et demi de séjour, pour des personnes qui n'ont plus accès au logement ordinaire, seules, pour des raisons économiques la plupart du temps, mais aussi médicales, des raisons administratives, sociales, un petit peu de tout ce qu'on peut voir dans notre vie de tous les jours, des amis, de la famille, des personnes qui ont des difficultés temporaires.
Ouais.
Et qui ont pour but de retrouver un boulot, d'éponger une dette, de se soigner avant de repartir à un autre lieu. Et donc on a aussi, un petit peu plus loin, de l'autre côté de la place de l'église, une pension de famille qui accueille à peu près le même type de personnes, mais qui ont essayé différents types de logements, donc c'est-à-dire les logements d'abord ordinaires en vivant seul ou en famille. Beaucoup ont vécu avec des conjoints et des enfants. Et puis ensuite en centre d'hébergement d'urgence parce qu'il s'est passé quelque chose, ça n'allait plus. Parfois à la rue, parfois dans d'autres types de logements, mais se sont jamais stabilisés.
Ouais.
Et finissent par avoir besoin d'une pension de famille. Et c'est un peu la mouvance actuelle du logement d'abord. Au lieu de continuer à envoyer ces personnes dans plein de types de structures différentes, on leur donne un logement pour le très long terme. Donc ils sont chez eux à part entière. On ne meuble même pas les logements. C'est eux qui apportent leurs meubles. Et ils sont là. La moyenne des départs, c'est jusque soit un départ en EHPAD, soit pour raison de décès. Donc ça vous donne la...
D'accord, les gens s'installent, ils restent ici. Et là, c'est plus transitoire comme...
C'est ça, exactement. On n'est plus du tout dans le transitoire, on est dans le logement pérenne. Et donc les personnes... là, on a une 25 places à Belleville, parce que on appelle ça pension de famille, ça garde le côté un peu intimiste, un peu cocon familial. Les personnes ne repartent quasiment pas. Donc on a très peu de places à pourvoir. D'où l'idée d'en construire d'autres à Beaujeu.
des nouvelles habitations. Et comment ça fonctionne? Alors les objectifs des 55 places du bâtiment principal, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est des habitations transitoires. Et le but, c'est de trouver un autre logement fixe.
C'est ça. Oui. Et de quelque part. Les personnes qui arrivent signent toutes un contrat de résidence qui les engage à réaliser des objectifs qui peuvent être vraiment multiples. Et dans ces objectifs, on peut retrouver aussi bien passer un permis de conduire, faire ma formation dans le BTP, dans je sais pas quel autre domaine, comme me soigner parce que j'ai telle ou telle maladie, mettre de l'ordre dans mes papiers parce que c'est sans dessus dessous et j'ai pas de droit à la CAF, j'ai pas de revenu minimum, etc. Voilà, et donc ces projets qui sont écrits noir sur blanc et qui engagent la personne parce qu'elle signe ce contrat sont le pourquoi de leur présence. Une fois qu'ils ont réalisé ce projet-là, il n'y a plus de raison à rester. Alors, effectivement, ça se traduit la plupart du temps par trouver un logement autre part, mais on a aussi, j'ai pas pris statistiques avec moi, mais grosso modo, un bon tiers des personnes qui repartent sans avoir de logement à eux. Ils repartent dans de la famille, ils repartent dans d'autres formes de logement que de leur propre logement ordinaire, parce qu'ils n'avaient pas forcément cet objectif précis ou parce qu'ils ont échoué à atteindre cet objectif précis, quoi.
Ouais. Et il y a quand même des réinsertions professionnelles, sociales aussi qui font partie de ces objectifs, mais du coup ça correspond à ce genre de contrat que vous signez entre vous.
C'est vrai que l'insertion professionnelle, elle compte pour beaucoup, parce qu'une personne qui a des difficultés sociales, économiques, il ne faut pas se leurrer, il y a souvent la question de l'insertion professionnelle derrière. Pour ceux pour qui ce n'est pas possible, il y a diverses solutions. Effectivement, on peut mettre en place des minimums sociaux, mais bien souvent, ça cache des difficultés qui sont... souvent médical. Donc un problème avec l'alcool, un problème avec une maladie psychique, et tout ça nécessite de l'accompagnement. Déjà face au déni, beaucoup de personnes qui ne veulent pas voir en face que leur divorce, leur licenciement, leur faillite économique, on a aussi des chefs d'entreprise qui font faillite, sont dus à cette difficulté-là. Alors, malade psychique, c'est sûr que c'est pas facile de se rendre compte qu'on est malade. Être alcoolique, c'est dur de voir la vérité en face aussi. Donc, cet accompagnement qui est long, qui est chronophage pour nous, parce qu'on doit accompagner des personnes qui sont en souffrance, et donc c'est de l'humain, on fait ça avec le plus de délicatesse et de finesse possible. Et l'insertion professionnelle, quand c'est possible, et quand ça l'est pas, essayer d'accompagner la personne pour qu'elle se stabilise dans la situation qui est la sienne, quoi.
Et le statut du foyer Les Remparts, c'est une association?
Oui.
Vous fonctionnez comment?
Alors, c'est une bonne question. C'est une association loi 1901 qui est totalement autonome. Pour les places de jeunes dont je parlais tout à l'heure, on a des prix de journée qui sont fixés avec le département du Rhône qui nous confie ces jeunes. On appelle ça des jeunes confiés. Donc, ça varie en fonction de si les personnes sont mineures, si elles sont majeures, si elles sont... si on accueille des mères avec enfants, si les mères qui ont des enfants sont elles-mêmes mineures, etc. Voilà, il y a plusieurs types de profils. Quand on passe au secteur résidence sociale, où là on a un public exclusivement adulte, les budgets diminuent drastiquement parce qu'il y a très peu d'aide là-dessus, alors que ça nécessite un gros boulot. On touche même pas l'équivalent d'un salaire pour un ETP, un temps plein.
D'accord.
Et sur la pension de famille, qui, elle, est vraiment soutenue par l'État, parce que l'État considère, avec sa politique de logement d'abord aujourd'hui, que on va économiser énormément d'argent sur les logements d'urgence, sur tous les maraudes, etc., tout ce travail qui est fait de précarité, pour donner un logement aux personnes d'emblée, tout de suite, pour les stabiliser. Et donc là, ils nous financent un prix de journée qui est de 18 euros par jour et par personne aujourd'hui, ce qui nous permet de financer à peu près 2 ETP, un peu plus de temps plein, pour s'occuper de ces personnes-là.
D'accord. Et les personnes qui viennent vers vous nous avez cité de nombreux profils.
Oui.
Comment est-ce qu'ils sont dirigés vers vous? Est-ce que c'est quelque chose de personnel qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ou est-ce que c'est des organismes qui leur...
Alors c'est une bonne question d'actualité aussi, parce qu'on en a beaucoup discuté pour le projet qu'on a à Beaujeu. La plupart des personnes viennent d'elles-mêmes, ou accompagnées par un membre de la famille, ou accompagnées par un travailleur social.
Ouais.
Donc vous imaginez bien qu'une personne qui se retrouve à la rue, ou qui était à l'hôpital, ou qui est mise à la porte, va rapidement voir une assistante sociale, un conseiller quelconque, même à la mairie, souvent les gens s'adressent à la mairie, voire à la gendarmerie. Ça arrive régulièrement que les gendarmes nous ramènent quelqu'un en disant « Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour telle ou telle personne ?» Et en général, ça se fait de manière directe comme ça, mais c'est le sujet d'actualité. Nous avons aussi une entité qui s'appelle SIAO, c'est un nom un peu savant, mais c'est une structure qui centralise toutes les demandes du département du Rhône, toutes les demandes de logement. Et donc on doit faire transiter via cette centrale d'orientation toutes les demandes qui sont faites, pour voir si la personne a un profil qui correspond à Belleville, ou si bien au contraire elle serait plutôt de Lyon, de Tarare, de je ne sais où. Et le cas échéant, elle nous oriente du coup les demandes qui ne seraient pas venues en direct. Voilà.
D'accord. Donc il y a un organisme extérieur qui va centraliser les demandes.
C'est ça.
De toute la région, ça se passe
par département. Il y en a un dans chaque département de France et qui permet de dispatcher en fonction des profils et en fonction de la situation géographique. Par exemple, les personnes qui veulent se mettre à la campagne parce qu'elles n'ont plus envie d'aller à Lyon, c'est pas pour autant qu'on va nous les orienter parce qu'elles vont être complètement perdues à Belleville. Voilà, donc il y a aussi une réflexion sur l'orientation des personnes qui est faite.
Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les demandes? Est-ce que vous pouvez répondre à chaque demande où il y a des fois, on dit qu'il n'y a plus de place et,
Alors, il y a souvent plus de place, mais on gère à peu près 110 places à Belleville actuellement. Et on a sur la résidence sociale une commission toutes les 6 semaines d'attribution, où là, on a quand même toutes les 6 semaines 1, 2, voire 4, 5 places, dans grand temps exceptionnel. Et donc, ça tourne pas mal. Mais même si on a des places de libre, on ne peut pas dire oui à tout le monde, parce qu'il y a une réalité économique. Tout à l'heure, je vous parlais des financements qu'on peut percevoir en tant qu'association pour accompagner les personnes, mais il y a aussi le foncier, le bâtiment, qui n'est pas gratuit, parce qu'on est propriétaire des murs, on les entretient, on paye une taxe foncière, etc. Et donc ça, c'est grâce à un loyer que les personnes payent, parce que voilà, il n'y a pas de miracle. Donc, en général, les personnes qui sont accueillies doivent avoir un tout petit minimum. Quand je dis tout petit, c'est que le loyer tourne autour de 400 euros et que quand les personnes arrivent, elles touchent à peu près 350 euros d'APL. Donc, ça vous laisse un résiduel loyer de 50 euros, ce qui est rien en soi. On peut vraiment payer 50 euros de loyer facilement, mais ça nécessite d'avoir mis en place au moins un minimum social, de travailler un tout petit peu, quelques heures par semaine. Bon,
Bien sûr.
Et donc, si cette condition-là n'est pas remplie, on ne peut pas leur dire oui. On est obligé de leur dire non.
Il faut qu'ils aient un revenu minimum.
C'est ça.
Très bien. Et alors, j'aurais bien aimé qu'on prenne le temps de parler aussi de toutes les activités qui sont mises en place. Je sais qu'il y a un travail sur le vivre ensemble, que vous proposez des activités pour les résidents, pour créer du lien social, j'imagine.
Oui.
C'est ça l'objectif.
C'est ça. Et c'est même le cœur de notre métier, parce qu'on travaille dans l'insertion d'un certain côté, dans la stabilisation du logement d'un autre côté, mais tout ça, c'est avant tout de l'humain, et au cœur des projets de vie de ces personnes, il y a un besoin de confiance en soi, de reprise de confiance en soi, et du coup, on a un animateur à plein temps, mais qui collabore aussi avec les éducateurs, les éducatrices, pour mettre en place des projets qui investissent les personnes le plus souvent à l'extérieur. Donc on va auprès des pouvoirs publics, des associations locales, même des entreprises du coin. On a un partenariat très établi avec les magasins Gamme Vert, par exemple, qui nous font faire les emballages des fleurs pour la fête des mères, qui nous donnent leurs invendus pour qu'on puisse travailler un potager collectif. On a une parcelle collective où là, s'il n'y a pas d'entraide pour travailler un jardin, il n'y a pas de potager.
Ouais, ça marche pas bien, c'est sûr.
On a Hervé Rour, qui est un professeur de cuisine du lycée des Grandes, qui vient nous faire des cours de cuisine gratuitement pour travailler et l'art de la table et la convivialité autour de la table, mais aussi le budget, parce qu'il y a l'équilibre alimentaire, il y a savoir gérer son budget quand on fait ses courses, voilà, et faire les courses ensemble, cuisiner ensemble, manger ensemble, arriver à un beau résultat par ses propres mains, c'est autant de confiance qui reviennent, qui permettent aux personnes de repartir sur, par exemple, un entretien d'embauche avec beaucoup plus de patates, d'être mieux dans ses baskets pour dire « Ok, je vais aller me soigner, je vais aller rencontrer un médecin. » Bon, voilà, toutes ces choses-là.
C'est acquérir de la confiance en soi.
Oui.
Tout ça, ça existe au foyer Les Remparts à Belleville.
Oui.
Et là, il y a un projet, c'est d'aller s'implanter à Beaujeu. Il y avait un besoin à Beaujeu.
Alors, il y avait un besoin dans le Haut-Beaujolais, tout court, parce que Beaujeu, c'est un peu la capitale du Beaujolais, de par son nom, mais c'est aussi le centre de Montsol, Ouroux, tous ces petits territoires, où en fait, il y a énormément de personnes qui ont besoin de ce type de logement, mais qui sont soit trop éloignées de Belleville, parce que ça fait quand même une trotte, quand on a une demi-heure, trois quarts d'heure de montagne, surtout l'hiver, quand il y a du verglas ou de la neige, mais en plus... parce que c'est compliqué de se déraciner du Beaujolais. Les personnes qui sont dans les petits villages avec leur famille depuis X années, c'est pas facile de leur dire vous allez aller, même si Belleville c'est pas non plus la jungle urbaine, mais ouais, c'est déjà un univers complètement différent. Et donc pour toutes ces raisons-là, il y avait un vrai besoin de logement accompagné à Beaujeu, ou en tout cas dans une zone du Haut-Beaujolais. Beaujeu étant la plus grosse ville du secteur, avec quand même des commerces de proximité, un peu de dynamisme d'une vie de commune, quoi. Ouais. Voilà. Ça nous paraissait logique de miser sur cette commune-là. Et donc on va pouvoir enfin donner une réponse à ces familles qui nous faisaient beaucoup de demandes.
Ouais.
Des personnes, alors là, le plus flagrant en ce moment, c'est les parents ou les frères et sœurs qui ont tenu à bout de bras leurs enfants, frères et sœurs handicapés, malades psychiques, en difficulté sociale pendant des années et des années, mais soit ils arrivent à la retraite, soit il y a des décès des parents, soit les maisons sont vendues. Tous ces gens-là se retrouvent démunis, et donc on va enfin pouvoir leur proposer des logements.
Des solutions.
Voilà.
D'aide et d'accompagnement. Et alors, c'est dans combien de temps, enfin, le projet, il en est où là? Et vous voyez les choses comment vers l'avenir?
Alors, on va déposer le permis de construire, enfin, ouais, avec un magnifique projet. On vient de voir les plans avec l'architecte. Ça nécessitait beaucoup d'aller-retour parce qu'on a plein de projets en même temps qui vont se croiser dans ce bâtiment. Ça va être une belle plateforme avec plusieurs partenaires qui vont avoir leur bureau, etc. Et on a aussi un cadre très bucolique qui va nous permettre d'avoir l'Ardière, le petit ruisseau qui passe en bas, une roue d'un moulin qui sera visible sur une belle plateforme. Bon, ça sera très joli. Ça a pris du temps, mais on dépose le permis de construire là d'ici peu, et on compte ouvrir fin 2022. On était parti sur mois de septembre, on va essayer de s'y tenir.
Ouais.
Septembre 2022. Mais bon, voilà, c'est après les aléas du bâtiment.
Ouais. Et donc il y a une campagne de financement qui a été mise en place, en particulier pour les lieux communs, pour le mobilier des parties communes de cette résidence.
Oui.
Vous avez fait appel à un organisme qui s'appelle Les Petites Pierres.
Oui.
Qui propose une belle solution de financement, je trouve. Ça marche bien.
C'est pas mal. Effectivement, on a un budget colossal pour construire le bâtiment qui est de 3 500 000 euros. Mais à côté de ça, on a plein de petites dépenses autres. Et donc, on aura plus de 30 000 euros de mobilier quand même pour les parties communes, pour que toutes les personnes qui sont si fragiles, si démunis, qu'on va accueillir dans ces bâtiments, puissent avoir un cadre quand même confortable, accueillant, chaleureux. Et le fonds de dotation Les Petites Pierres, effectivement, nous a proposé ce programme. Alors, c'est un fonds de dotation, c'est-à-dire que derrière, il y a des entreprises partenaires qui doublent tous les dons qui sont réalisés. Si vous donnez 100 euros, le fonds de dotation rajoute aussi 100 euros. Le but, c'est d'atteindre 20 000 euros. Donc, ça ne financera pas tout notre projet, mais quand même une bonne partie. Et ce qui est un petit peu excitant, c'est que c'est assez court. On a 3 mois. Ça a commencé le 1er mars, ça finit le 27 mai.
Ouais.
Et si on n'atteint pas les 20 000 euros, on perd tout. C'est tout ou rien.
Donc, d'accord.
Ça, c'est un gros challenge. S'il nous manque 2 euros, c'est foutu. Tous les donateurs sont remboursés et on ne touchera pas un centime.
D'accord. Ah, je connaissais pas cet aspect-là. Donc, il y a vraiment un côté challenge.
Oui.
Mais il y a le côté aussi, l'organisme double les.
C'est ça.
Le financement. Donc, on trouve le lien pour participer au foyer lesremparts.fr.
Et c'est déductible d'impôts à 75% jusqu'à 1 000 euros. Et pour les très généreux donateurs, c'est à 66% au-delà de 1 000 euros.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Vol, d'être venu nous parler de cette association, le foyer Les Remparts, et puis de ce projet d'implantation à Beaujeu.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
On va se quitter en musique. On continue avec le morceau Our House. Cette fois-ci, c'est la version de Madness qu'on écoute.
Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our
house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Madness, évidemment, sur Kelad avec le titre Our House.
Magnifique. Vous faites du sport ?
Le sport ? Mais c'est pas un sport, c'est un rêve.
Allez les sportifs, à la noix de coco.
Ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
Ensemble sur Kelad, l'instant sport.
Incroyable ! Ah, oh, je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là !
Chers amis sportifs, bonsoir.
Allez, c'est l'heure effectivement de l'instant sport et on retrouve donc Eddy Bernard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bon alors Eddy, on suit chaque semaine les aventures du FCVB, qu'en est-il du foot en Beaujolais ?
En particulier, tout à fait. Alors c'est vrai que la semaine a été un petit peu différente de ce qu'elle aurait dû être. Je ne vais pas faire de mauvaise liaison dès le début de la semaine. Parce que c'est vrai que le calendrier du national, il évolue parfois très vite. Et c'est vrai que la rencontre de mardi dernier est prévue à domicile à Chouffet face au Red Star. Elle a été reportée à la dernière minute, la veille au soir, voire le matin même. En tout cas, l'information a eu du mal à circuler parce qu'on a été au courant très très tard qu'il y avait des cas de Covid dans l'effectif du Red Star. Et donc, la rencontre ne pouvait évidemment avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc, elle a été reportée. Donc, mardi 23, cette journée n'a pas eu lieu pour les Tigres du Football Club Villefranche-Beaujolais. Et quant à la journée de vendredi, qui était elle aussi prévue au stade Armand Chouffet face à la Lanterne Rouge Boulogne-sur-Mer, elle a finalement eu lieu samedi à 18h. Là encore, avec une communication pour le moins hasardeuse, pas grand monde n'était au courant. Alors bien sûr, les rencontres s'effectuant à huis clos, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. En tout cas, pas pour les joueurs, bien entendu, pas tellement pour l'environnement. Mais c'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à suivre là, ce calendrier qui ne cesse de changer. Pas très agréable pour nous, mais la rencontre a quand même eu lieu. Et nos Tigres n'ont pas pu enchaîner un nouveau succès à domicile face à cette Lanterne Rouge. Donc, il fallait en effet se méfier pour les joueurs d'Hervé Della Maggiore, notre nouveau coach du FCVB, donc de cette équipe qui n'est sans doute pas à sa place au classement, donc 18e, dorénavant 17e, parce que samedi, eh bien, cette équipe a donné beaucoup de fil à retordre à nos Tigres. Mmh. Et c'est un match nul, donc un but partout, qui a scellé cette rencontre. Les Caladois avaient pourtant réussi, étaient parvenus à ouvrir le score autour de l'heure de jeu par Maxime Blanc, qui est dans une forme assez éblouissante. C'est un joueur qui est vraiment au sommet de son art en ce moment. Mais les Caladois n'ont pas pu résister. Ils ont baissé le pied, ils se sont un peu recroquevillés. Et à deux minutes de la fin, malheureusement, ils ont encaissé, croyant obtenir un pénalty à deux minutes de la fin. C'était finalement un simple coup franc à l'entrée de la surface. Il a été mal négocié et dans le contre qui a suivi, malheureusement, les Caladois se sont fait surprendre. Un but partout. Ils conservent la 9e place, un classement qui n'est pas très lisible. Certaines équipes ont joué 23 matchs, tandis que d'autres n'en ont joué qu'une vingtaine, mais le FCVB, donc, qui est toujours ancré à la 9e place avec 28 points. Dans ce national, on commence, Mathieu, à voir une hiérarchie se dessiner. Deux équipes finalement commencent un petit peu à survoler les choses. Bastia ne devrait pas tarder à retrouver la Ligue 2, 46 points. Il caracole en tête avec 6 points d'avance sur Quevilly-Rouen et maintenant 14 points d'avance sur Orléans et Le Mans. Le Mans qui sera le prochain adversaire du FCVB, quatrième du classement, donc vendredi prochain. Voilà un petit peu pour ce point foot. J'ajoute une petite actualité, Mathieu. Alain Pochat, coach de notre équipe, de nos Tigres pendant plus de 3 ans et demi, remercié effectivement là il y a quelques semaines, n'a pas tardé à rebondir. La rumeur a été amplifiée puis confirmée ces derniers jours. Alain Pochat fait un très très court voyage pour retrouver un poste, puisque c'est le jeu des chaises musicales. Tu connais un peu ce jeu?
Oui, bien sûr. Ouais.
Et oui, alors Hervé Della Maggiore, qui est aujourd'hui entraîneur du FCVB, était passé par le football Bourg-en-Bresse 0-1, avant effectivement d'être lui remercié la saison dernière. Le coach de l'ex-Lyon du Cher Sporting Club de Lyon, 16e du classement, Karim Mokdem, avait donc pris la place de Maggiore du côté de Bourg-en-Bresse. Ouais. Et Karim Mokdem a, à son tour, tu l'as compris, été remercié. Et qui est désormais à la tête du football Bourg-en-Bresse-Perona? Eh bien, tu l'as deviné, c'est bien Alain Pochat, qui a bien débuté avec un succès, 2-0, avec cette nouvelle équipe. Tu vois, les chaises musicales.
Ah oui, c'est impressionnant.
Football, elles se poursuivent et elles s'amplifient. Et même dans les championnats inférieurs aux deux grandes ligues, qui sont professionnelles malgré tout, eh bien, voilà, on vit ce genre de choses. et Alain Pochat, pour en terminer et pour la petite histoire, Alain Pochat sera de retour au stade Armand Chouffet très bientôt, le 12 mars. Pourquoi? Eh bien, parce que le FCVB affrontera à domicile, le 12 mars, l'équipe de
Bourg-en-Bresse.
Bravo,
j'ai
compris la complexité de la situation. Bravo Mathieu.
Très bien, donc il va être sur
back, donc dans 15 jours entre eux, Alain Pochat et donc les dirigeants du FCVB, c'est un peu surréaliste, mais c'est comme ça.
Et il me semblait que Bourg-en-Bresse-Villefranche, c'est une sorte de derby, non?
Ah, c'est un derby, bien ouais. Sûr. Alors il y en a beaucoup effectivement dans le football. Celui-ci en est un, avec celui contre la Duchère, en effet, pour ces trois-là, c'est vrai que Villefranche et les deux autres, effectivement, lorsqu'ils se rencontrent, font de très courts déplacements. Ceci étant, alors avec cette saison à huis clos, tout ça perd un peu de sa saveur, je ne te le cache pas. Ça se voit dans les résultats d'ailleurs, parce que statistiquement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'équipe entre guillemets à domicile. Il y a moins d'avantages, si tu veux, à jouer sur son propre terrain, surtout lorsqu'il est parfois d'assez mauvaise qualité. Ou au contraire de très bonne.
Ouais, on se rappelle d'un terrain de boue. Ouais.
A pas passé un super hiver, je te le cache pas.
Ouais.
Enfin voilà, ça c'est pour l'actualité du football. Donc statu quo, tu l'as compris, pour le FCVB, mais qui est en milieu de tableau et qui reste malgré tout sur une bonne dynamique avec plutôt de bons résultats depuis la fin de l'année 2020, le début de l'année 2021. Et à ce rythme-là, nos Canadois peuvent peut-être encore se mêler. Alors peut-être plus à la lutte pour l'accession, là ça devient un peu mission impossible, mais pourquoi pas pour aller chercher en fin de saison une belle place d'honneur comme la saison dernière, avant peut-être de retrouver enfin le public et l'engouement, hein, effectivement, de tous ceux qui suivent les Tigres. Je voulais qu'on puisse parler un petit peu cyclisme.
Bah oui, bien sûr, Eddy, parce que c'était ce week-end, oui, le début de la saison de cyclisme, c'est bien ça ?
L'heure tourne et j'aimerais effectivement qu'on salue l'entrée en lice donc des loups cette fois, hein, après les, ouais, Tigres. Les loups du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui défendront leurs couleurs dans la Coupe de France DN1, la plus prestigieuse derrière les deux niveaux du cyclisme mondial, avec une belle écurie. Et on se rodait comme d'habitude, je dirais, avec les traditionnelles boucles, le circuit plutôt, le circuit des communes de la vallée du Béda en Auvergne, où donc cette classique où l'on retrouvait pour la 21e fois des équipes de haut niveau et de l'élite nationale, ça permettait déjà de se jauger avec les autres grosses écuries de ce niveau-là. Je pense au Team Pro Imo, par exemple, ou encore, plus près de nous, au cyclisme de Bourg-en-Bresse, et puis aux traditionnelles équipes qui forment bien, comme le Vélo Club Vaux-en-Velin, par exemple. Enfin, du beau monde, comme d'habitude, pour ce premier rendez-vous de la saison là-bas en Auvergne, où les Caladois n'ont pas réussi à se hisser dans les 10 premiers, et n'ont pas été véritablement encore dans le coup. La préparation, on le sait, s'est achevée il n'y a seulement que quelques jours par un très gros stage pour qu'ils soient prêts pour les vrais rendez-vous, ceux qui compteront, hein, pour la Coupe de France DN1. Donc il n'y avait peut-être pas forcément de grandes ambitions à nourrir pour ce circuit du Béda, mais la course s'est finalement jouée dans le dernier kilomètre avec un peloton réduit à portions congrues de moins de 70 unités qui se sont affrontées dans le dernier kilomètres. Et c'est un tout jeune coureur de 21 ans stéphanois qui s'appelle Jacques Le Breton qui a tenté sa chance en solitaire juste avant la flamme rouge et qui a résisté finalement au retour du peloton. D'un cheveu, il s'impose devant certains coureurs dont on le sait. Ils seront présents, hein, dans les grands rendez-vous de la saison, et ils sont déjà affûtés, comme Alexandre Jamet de Bourg-en-Bresse, Sandy Dujardin, qui évolue toujours sous les couleurs de Vendée-U, Romain Feillu, le Périgourdin. Ceux-là ont fini dans cet ordre-là. Donc les quatre premiers ont pris les quatre premières places classement. Pas de Caladois donc dans le sprint final, mais ça peut s'expliquer encore une fois par la nécessité de se roder après gros stage final de préparation ces derniers jours. Ils enchaîneront dans les prochaines semaines avec de nouvelles autres classiques, comme je te le disais la semaine dernière, je t'avais donné le programme en Auvergne d'abord pour ces prochaines semaines, avant qu'on se retrouve là d'ici un mois et demi pour l'un des quatre rendez-vous qui seront essentiels cette année, les rendez-vous qui compteront pour la Coupe de France, donc la Coupe de France DN1. Rappelons qu'ils sont champions de France DN1 2019, nos loups, ils sont vice-champions de France 2020. Eh bien, en 2021, il est évident que l'équipe managée par Anthony Barle et les habituels directeurs sportifs du VCVB ont des ambitions.
Ils vont encore faire parler d'eux.
Et ont constitué une équipe qui, normalement, devrait être assez compétitive à ce niveau, même si, hein, on le rappelle, trois cyclistes ont signé professionnels dans les rangs des loups, hein, à la fin de l'édition 2020, et les recrues sont des jeunes qui prétendent à un avenir au plus haut niveau amateur, voire effectivement du côté du circuit professionnel. On va les suivre de près et on sera derrière les loups donc pour les prochains rendez-vous, pour rendre compte bien entendu de la saison.
Très bien, et bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Eddy, pour ce point sport.
Alors, j'avais une dernière petite chose à ajouter avant de te quitter, parce que tu ne m'as pas posé la question. Voilà, très vite. Pas de nouvelles quant à l'avenir des autres disciplines sportives encore ces derniers jours. C'est vrai que plus le temps passe et plus ça semble compromis. On en reparlera sans doute plus en détail la semaine prochaine. Si il y a une quelconque évolution de la situation, en tout cas, rien n'a filtré ces derniers jours des fédérations de basket, basket, de handball ou de volley ou autre.
Ça bouge toujours pas. Bon, eh ben, on attend, on est patient. Il va falloir.
En effet, on ne peut pas faire autrement, à part attendre.
Merci encore une fois, Eddy. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à
suivre plaisir.
Nos équipes locales. À bientôt.
Très bonne semaine, Mathieu.
Et ben sur Calade, après le sport tous les lundis, vous connaissez la chanson. Place au jazz maintenant avec Georges Botton.
Démarre la bagnole. Vas-y, démarre. C'est bien gentil tout ça, mais moi j'aimerais bien qu'on accélère un tout petit peu la cadence.
Non mais c'est toi là qui touche mes vitesses que je pars.
J'ai rien fait, ça va pas.
Ensemble sur Calade, mais la 11e.
Allez, c'est lundi aujourd'hui, et comme chaque lundi, pour terminer l'émission, on retrouve Georges Botton et sa rubrique « Mais la 11e ». Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Eh ben, très bien, et toi ?
Bah, ça va, je te remercie.
En forme ?
Toujours,
bon.
Toujours, malgré bon, un âge avancé et qui fait pas marche arrière.
Malheureusement, ça serait pas. Ce serait pratique.
C'est comme ça.
Tu donnes régulièrement des citations dans cette émission.
Oh, ben écoute, pour une fois de plus, je vais parler de mon copain Pierre Dac. Je l'ai eu au téléphone hier soir, il est toujours au paradis, il se porte bien là-bas. Ils n'ont pas les problèmes de confinement et de problèmes sanitaires qu'on a ici sur Terre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Pierre Dac, là j'ai deux. Alors, ce sont deux citations qui sont courtes d'abord et qui sont en rapport avec le milieu médical. Alors c'est peut-être le moment de les méditer tranquillement. La première citation, les suppositoires à la nitroglycérine sont beaucoup plus efficaces que ceux à la glycérine pure, mais se révèlent beaucoup plus bruyants. Bon, ça c'est...
Pas mal.
Pas mal, oui, je trouve assez marrant.
On peut imaginer.
Et puis la deuxième... La pédiatrie, c'est l'art médical, noble et généreux, d'empêcher l'enfance de vieillir avant l'âge. C'est assez philosophique, ça, dans le fond. Mmh. C'est sympa. Bon, j'avoue que j'ai un grand faible pour Pierre Dac. Alors maintenant, revenons à la musique. Je vous ai préparé, amis auditeurs, amis auditrices, je vous dis bonjour d'abord. J'avais oublié, je suis très mal élevé, tant pis. Je vous avais préparé un boogie interprété par un jeune prodige qui s'appelle Nirek Mokhtar, au piano. C'est une création, c'est lui qui a créé le morceau qu'on va mettre. Le morceau s'appelle Café Society. C'est un enregistrement du 29 juin 2015 au studio Jules César. Je ne sais pas où c'est, Jules César. Et il est accompagné ici, Nirek Mokhtar, par Claude Bro au saxo ténor et Thomas Racine à la batterie. À 0 minute 48, il y a un bon solo de Claude Bro, solo de saxo ténor. Alors, Nirek Mokhtar, je vous en dis deux petits mots. C'est un Français d'origine indienne, il vit à Paris. En 2017, il avait 15 ans, donc ça lui fait 19 ans maintenant, à peu près. Je n'ai pas de date précise. On l'appelle le petit Mozart du boogie, puisqu'il a fait un premier disque à 12 ans et un deuxième à 13 ans. C'est un peu prodige. Moi, je l'ai entendu deux fois à des soirées, il est absolument super. Et il a un grand dynamisme. Il a participé à beaucoup de festivals, à Beaune, à 11 ans, à Roquebrou, à 12 ans, en Suisse, à Lugano, à 13 ans, et à La Baule, en 2017. Il a fait des programmes également au Festival de Blues à Gières, en Suisse, en Hongrie, pardon, et aux USA, à Cincinnati. Il a beaucoup d'aisance quand on le voit jouer, beaucoup de facilité. Il paraît qu'il est timide, mais moi, je n'ai pas remarqué. Bon, il y a un petit peu d'aspect également un petit peu acrobatique, un peu comédie, parce qu'il joue, parfois, il joue avec le pied, en jouant avec le pied sur le clavier, ou il joue avec la tête sous le piano, enfin voilà. Bon, mais ça, c'est sympathique, ça fait un peu d'animation. Alors, voici donc, amis auditeurs, amis auditrices, et ben, je vous dis au revoir. Je vous dis à demain pour la 101e et à lundi prochain pour la 11e. Et je vous laisse écouter. J'espère que vous savourerez le Café Society. Voilà, par Nirek Mokhtar.
Et le morceau, il avait quel âge quand ça a été enregistré, ce qu'on va écouter ?
Alors, c'était 2015. Ben, il avait donc 15 ans. Non, il avait...
13 ans ?
13 ans. 13 ans, exact.
D'accord. Ok, moi j'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Georges.
Voilà.
La semaine prochaine pour la 11e.
À la semaine prochaine.
Et à demain, mardi, pour
la
101e. Et c'est là-dessus que je vais dire au revoir aux auditeurs également. Je souhaite une très bonne journée. On se quitte donc avec.
Eh bien, bonne journée aussi à toi et à vous tous, à mes auditeurs, à mes auditrices.
À bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.